Bonjour, alors c'est l'heure de Radio Cartable sur 89.4 FM. Toutes mes excuses pour ce retard. Aujourd'hui, nous allons rediffuser des sons qui sont autour du thème de l'engagement. C'est tiré de la promenade radiophonique que vous avez peut-être eu l'occasion de croiser au détour d'une rue dans Ivry-sur-Seine. Des petits extraits des archives de ces derniers 40 ans de production par les enfants. Et donc ici, c'est l'occasion de s'interroger sur les différents sens du mot « s'engager ». Donc on entendra 4 petits extraits de 5 minutes, puis une série d'archives autour de la thématique de l'eau, en particulier autour du festival de l'eau qui a existé à l'initiative du département du Val-de-Marne pendant quelques années. Bonne écoute.
Radio Cartable. La radio.
Bonjour, nous sommes en 2001.
Pourquoi êtes-vous venu à la fête de l'eau?
Ben, je suis venu à la fête de l'eau parce que je partage tout à fait cette initiative qu'avait prise le Conseil Général. Et j'étais très heureux que le maire d'Ivry me demande pour son compte de participer à la réalisation de la fête d'Ivry cette année en étant le représentant de la ville au Conseil Général pour le Festival de l'eau. Donc, il était normal que mon association, qui s'occupe de l'eau, des poissons qui sont dans l'eau, de la nature, de l'environnement, eh bien, participe à cette fête du Festival de l'eau.
Ramenez-vous d'autres choses à part du poisson?
Ah, quelquefois des coups de soleil quand il fait très beau. Et j'y rapporte une grande sérénité, un plaisir d'avoir passé un grand moment dans la nature et d'avoir satisfait à ma passion, qui est à la fois un loisir, je veux dire, un sport, mais en même temps aussi une action, parce qu'il n'y a pas de meilleur défenseur de l'eau que les pêcheurs. Nous sommes à l'affût de tous ceux qui polluent l'eau et nous intervenons toujours et sont punis par des jugements. Nous touchons de l'argent d'ailleurs pour réempoissonner quand il y a des pollutions sur la Seine ou sur la Marne.
On a oublié de vous poser une question. Qu'est-ce que vous faisiez avant comme métier?
Ben, mon premier métier, c'était un métallurgiste. J'étais tourneur, outilleur dans une usine d'aviation. Ensuite, je suis devenu un homme politique, un jeune d'abord, qui a fait de la politique et un homme politique. Et un jour, je me suis retrouvé maire d'Ivry-sur-Seine, où je l'ai été pendant 33 ans. Donc ce n'est pas mon métier, c'est simplement là aussi une certaine passion de vouloir le bonheur pour moi-même et pour les autres. Et j'ai consacré donc ma vie aux intérêts de la population et de la ville d'Ivry-sur-Seine.
En 2024, Radio Cartable fête ses 40 ans.
Bon, alors bonjour à tout le monde d'abord. Moi, je m'appelle Paul Niedermann. Vous pouvez m'appeler Paul, c'est plus court. Moi, je suis né en Allemagne. Bon, là, vous avez une carte de France, d'accord? Et vous avez... Donc là, c'est Strasbourg, voyez-vous? Et moi, je suis né de ce côté-là du Rhin, de l'autre côté, donc tout près de la frontière française, mais en Allemagne. Alors, bon, on vous a parlé des nazis, bien sûr. Vous avez entendu parler. En Allemagne, il y avait un régime totalitaire, c'est-à-dire un régime d'une dictature. Je vais vous parler un tout petit peu de la vie d'un enfant juif en Allemagne nazie. Dès 1940, c'est-à-dire très très tôt dans la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont voulu savoir comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser des juifs. Vous savez que les nazis étaient des racistes et dès leur arrivée au pouvoir, ils s'en sont pris aux juifs parce que bon, c'était pour eux une façon d'éveiller l'intérêt de tout le monde. Ils sont attaqués aux juifs. J'avais 6 ans quand les nazis sont arrivés au gouvernement. Au pouvoir. Dès 1940, ils ont choisi 3 provinces pour faire un essai, pour savoir comment est-ce qu'on s'y prend. Ils ont arrêté tous les juifs de ces 3 provinces, c'est-à-dire 6500 personnes. 6500 personnes, c'est une petite ville. Et ils les ont déportés. Bon, on a tout perdu, la maison, nos affaires, tout. Hein. On nous a déportés et on a fait un voyage qui a duré 3 jours et 4 nuits. Dans des trains, sans manger, sans boire, sans pouvoir se laver, sans toilette, sans rien. On est parti donc de là, et ils nous ont emmenés à travers toute la France, jusque dans la région des Pyrénées, c'est-à-dire à la limite de l'Espagne, à côté de la ville de Pau, où il y avait un camp de concentration, où on enfermait des gens derrière des barbelés. Eh bien, moi, j'avais 12 ans. Bon, j'étais pas beaucoup plus âgé que vous,
Nous sommes dans 1992.
Bonjour, moi c'est Daniel.
Bonjour Daniel.
Moi c'est Colette, bonjour.
Bonjour.
Moi c'est Céline, bonjour.
Bonjour à Céline.
Moi c'est Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Christiane, bonjour.
Bonjour.
Et Claire, bonjour.
Oui,
bonjour.
Nous sommes tous réunis et on voudrait dire qu'on représente bien évidemment là, tous les parents des CM2 de l'école Einstein. Hein. Comment ça va?
Très très bien.
Et la météo?
Nous allons vous la dire.
Ok.
Aujourd'hui, nous n'avons pas les meilleures conditions pour animer cette émission, car nous n'avons qu'un téléphone, pas un seul micro, et nous sommes 18 autour de ce minuscule appareil. Mais ce n'est pas grave.
Ici, tout va bien. Quelques nouvelles de notre santé? Nous avons les fesses bleues à cause des chutes en ski. Les joues toutes rouges grâce au soleil. Il n'y a pas que nos joues qui sont rouges. La gorge de Vanessa est bien rouge aussi en ce moment.
Bonjour, moi c'est Céline. Et je suis avec ma copine Sabrina et nous allons vous présenter la situation du village. Le chalet où nous sommes se situe en Savoie à 4 km du village d'Héry-sur-Ugine qui est l'un des 10 villages du haut de l'Arly.
Saviez-vous qu'en 1800, il y avait 884 habitants à Héry-sur-Ugine et que 182 ans plus tard, il n'en reste plus que 186, soit une baisse de 698 habitants. La montagne se dépeuple.
Nous aimerions beaucoup savoir comment les enfants qui n'avaient jamais vu la montagne ont réagi.
Bonjour, je m'appelle Sébastien. Je vais poser des questions à mes camarades Christelle et Florent qui n'avaient jamais vu la montagne. Christelle, comment imaginais-tu la montagne?
Je ne croyais pas qu'on était si haut et qu'il y avait autant de neige.
Comment imaginais-tu les chalets, Christelle?
Moi, je les imaginais plus petits et moins hauts.
Que penses-tu de la montagne le soir?
Je trouve cela très joli, car toutes les montagnes qui nous entourent deviennent roses grâce au soleil.
En 2024, Radio Cartable fait ses 40 ans.
1788.
La société à la veille de la Révolution, elle comprenait 500 000 privilégiés, dont les nobles qui ne payent pas d'impôts, qui perçoivent les droits féodaux. Certains emplois leur sont réservés.
Et le clergé ne paye pas d'impôts, assure le service des écoles et hôpitaux.
Tu oublies les 25 millions de non-privilégiés, dont les bourgeois souvent riches, les artisans et ouvriers peu nombreux.
Les cahiers d'oléances, chaque ville et village a exprimé ses plaintes, ses souhaits. Le roi réunit les états généraux le 5 mai 1789 pour réclamer de nouveaux impôts. Les députés sont divisés en trois ordres.
La noblesse, le clergé, le tiers-état. Le 23 juin, dans la salle du jeu de paume, les députés du tiers-état se proclament Assemblée nationale constituante.
En 2024, Radio Cartable fête ses 40 ans.
Bonjour, nous sommes en 2018.
Bonjour, nous sommes la grande section de la maternelle Jacques Solomon.
Notre maîtresse s'appelle Célima.
Aujourd'hui, on va vous parler de l'amour.
On est amoureux, on a le cœur qui bat très fort.
Quand on est amoureux, on prend un petit déjeuner entre amoureux.
Quand on est amoureux, on fait des bisous sur la bouche.
Quand on est amoureux, on a le cœur léger.
Quand on est amoureux, on se fait des câlins.
Quand on est amoureux, on est tout nu.
Quand on est amoureux, on tremble.
Quand on est amoureux, on pense que tout le monde est amoureux.
Quand on est amoureux, ça donne de l'énergie et ça donne du plaisir.
Quand on est amoureux, on a les joues rouges.
Quand on n'a pas d'amoureux, on est triste.
Quand on n'a pas d'amoureux, on a le cœur brisé.
Quand on est petit, on pense déjà à un amoureux.
L'amour, c'est aussi quand nos mamans, elles nous aiment.
Moi, j'aime que ma maman m'embrasse.
On peut se marier quand on aime bien quelqu'un.
L'amour, ça fait du bien.
Voilà, c'est fini pour notre émission.
On vous dit à bientôt sur Radio Cartable.
En 2024, Radio Cartable fête ses 40 ans. Thank you.
m'appelle Soraya.
Bonjour, je m'appelle Sophia.
On présente l'émission pour Radio Cartable. Est-ce que vous voulez bien vous présenter ?
Oui, je m'appelle Jean Garcia, je suis responsable de la CGT du Val-de-Marne et je m'occupe aussi un petit peu de l'exposition que vous voyez aujourd'hui.
On veut vous poser des questions sur les métiers qu'il y avait avant, au bord de la Seine.
Comment traverser la Seine avant ?
Mais avant, il y avait des bateaux qui permettaient aux gens de traverser la Seine, sauf qu'il fallait attendre que le bateau soit là et qu'il y ait suffisamment de monde pour monter dans le bateau, etc. Ça permettait pas de passer la Seine quand on le souhaitait. Il fallait attendre.
Est-ce qu'on pourrait savoir à quelle époque on a eu l'idée de construire des ponts ?
Les premiers ponts ont été faits à Paris, mais il y en avait un tous les, je sais pas, 20 ou 30 ou 40 ou 50 kilomètres. Mais petit à petit, régulièrement, il y a des nouveaux ponts qui ont été construits. Il y en a encore qui se construisent aujourd'hui. Celui de la A86, par exemple, à Choisy-le-Roi, a été construit il y a une dizaine d'années. C'est un des derniers ponts qui a été fait sur la Seine pour le moment. Mais il y en avait beaucoup avant.
Alors, on voudrait savoir... Pourquoi il y avait des tonneaux au bord de la Seine ?
Mais parce qu'à Paris, on ne faisait pas de vin et que les Parisiens buvaient du vin. Il fallait bien que le vin arrive par un moyen de transport ou par un autre. Or, la Seine permettait de faire venir par la Seine et par la Marne du vin de Bourgogne, de Champagne, etc. Donc c'était chargé sur des péniches, les tonneaux étaient chargés sur des péniches, des zones de production, et ensuite c'était amené... essentiellement à Charenton, juste en face d'Ivry, où on déchargeait les tonneaux qui étaient amenés à Bercy, qui était une grande foire du vin. Et puis là, les commerçants venaient l'acheter pour ensuite le revendre sous forme de litres à l'ensemble des Parisiens. Voilà.
On est en train de regarder une photo de 1910. On voit une femme qui est en train de laver son linge. Elle est à genoux sur une brouette au bord de la Seine. Elle lave son linge et elle le sèche sur de l'herbe.
Alors pourquoi les femmes laveuses se mettaient sur une brouette pour laver le linge ?
Mais d'abord, elles ne se mettaient pas sur la brouette. Elles arrivaient, la brouette, elle a une roue, donc ça permettait de transporter le linge. Elles mettaient tout leur linge sur la brouette. Ensuite, quand elles arrivaient au fleuve, elles rentraient la roue dans le fleuve, qui était en pente douce, hein. Et puis ça leur permettait à la fois d'avoir le linge et de pouvoir, avec le petit truc qu'il y a juste devant là, pour s'accroupir, de pouvoir laver dans la Seine. Ensuite, elles remettaient le linge sur la brouette et puis elles allaient l'étendre sur les prés ou les petits ados qu'il y avait sur le côté, ou alors sur des fils, comme aujourd'hui, pour faire sécher le linge. Voilà.
Est-ce que c'était un métier pour les femmes ?
Il y avait des femmes qui faisaient ça pour leurs besoins domestiques, mais il y avait aussi des femmes qui avaient beaucoup plus d'argent dans des familles, qui avaient plus d'argent et qui ne voulaient pas faire la lessive par elles-mêmes. Et donc, qui demandaient à des gens de faire leur lessive. Et c'est devenu un métier. Blanchisseuse était devenu un métier. On déposait le linge sale chez la blanchisseuse. Et puis, deux, trois jours plus tard, je ne sais pas, la blanchisseuse rendait le linge propre et repassait. Et là, vous voyez, c'est sur les bords de la Bièvre. C'est une rivière qui existe encore, mais qui a été recouverte parce qu'à force de mettre des tas de choses dedans, elle a fini par sentir beaucoup. Mais vous voyez là, les blanchisseuses qui sont sur le bord et qui lavent le linge. Alors, des familles leur amenaient du linge à laver, elles lavaient le linge, elles leur amenaient le jour même ou le lendemain, laver, propre, etc. Et c'était un métier tout le long de la Bièvre.
Alors pourquoi les fabricants de chaussures étaient au bord de la Seine ?
Mais d'abord, ils n'étaient pas au bord de la Seine, ils étaient au bord de la Bièvre. Parce que la Seine, c'est un grand fleuve et on ne pouvait pas installer les tanneries. Donc on les a installées sur une petite rivière qui coule entre Cachan et Villejuif et Arcueil, qui s'appelle la Bièvre, et qui était suffisamment petite pour qu'on puisse y mettre des pots. C'était des pots de brebis, ou de moutons, des peaux qu'on prenait sur les bêtes et qui étaient tannées. C'est-à-dire qu'elles étaient préparées, prêtes pour être utilisées pour faire des habits, mais aussi pour faire des bottes, pour faire des chaussures. Et là, on voit un cordonnier en train de fabriquer des chaussures qui utilisait les peaux qui étaient tannées juste à côté, sur les bords de la Bièvre.
Pourquoi il y avait des briques à côté de la Seine?
C'était surtout à l'endroit où il y avait des carrières d'argile, c'est-à-dire la terre qui permet de faire des tuiles et de faire des briques. C'était pas loin de la Seine parce que les faire les plus près du fleuve, ça permettait aussi de pouvoir les transporter plus facilement. C'est pour ça que beaucoup d'industries se sont installées à côté du fleuve, parce que sur le fleuve, il y a des bateaux qui peuvent naviguer, qu'on peut charger les bateaux et que ça permet de transporter d'un endroit à l'autre. C'est pour ça que les briqueteries, par exemple, à Maison Alfort, il y en avait à Ivry, il y en avait à Choisy-le-Roi, il y en avait à Villeneuve-le-Saint-Georges, ce qui permettait à la fois de fabriquer, parce qu'il y avait la terre qui n'était pas loin, de les fabriquer et aussi de les transporter, parce que toutes les productions qui étaient faites, c'était fait pour Paris. Paris, c'était la grande ville et tout ce qui se fabriquait, c'était fabriqué pour la grande ville. On le faisait sur place et on l'envoyait, puisque la Seine passe à Paris, on l'envoyait par bateau sur la Seine et c'était déchargé à Paris, c'était utilisé à Paris.
Alors, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie d'avoir posé les questions parce que ça me fait plaisir d'y répondre.
Au revoir.
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 et c'est l'heure de Radio Cartable, la radio des enfants des écoles d'Ivry.
Bonjour, nous sommes la classe CE2A de Madame Pasquet. Nous venons de l'école Jacques Solomon. Nous avons interviewé Monsieur Ego qui s'occupe de l'écluse. Nous avons fait aussi des expériences sur l'eau.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O. Elle a trouvé beaucoup de choses, elle a trouvé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh H2O, la baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 oh H2O.
Bonjour, nous sommes l'école de Jacques Solomon. Ici, nous sommes à l'écluse d'Alfortville et nous allons vous poser des questions.
Bonjour, je suis Monsieur Ego Didier, responsable de l'ouvrage d'Alfortville Vitry.
Pour savoir où est la rive gauche et où est la rive droite, il faut se mettre dans le sens du courant. Et après, on peut savoir où est la rive droite et où est la rive gauche. La rive gauche est à gauche et la rive droite est à droite. C'est aussi simple que ça, hein? Non? Vous ne trouvez pas?
Là, vous avez la chance de voir des péniches, tout au moins un bateau de plaisance qui rentre dans l'écluse, un bateau nettoyeur pour que le fleuve soit propre, et un bateau de commerce dont sa spécialité est de transporter des céréales.
Les péniches transportent du charbon, du gravier, des grosses pierres, du sable, des graines et des céréales. Mais elles ne peuvent pas transporter de la viande, des fruits, de la crème fraîche et du beurre. Parce que en trajet, les viandes, les fruits,
la crème fraîche et le beurre, ça va pourrir, puisque les péniches vont pas assez vite. Les camions vont assez vite. On prend les péniches, puisque c'est moins cher.
Ces céréales, il va aller chercher à 90 km d'ici, c'est-à-dire vers Montereau, au confluent de la Seine et de l'Yonne.
Je vais vous expliquer ce que c'est le confluent. Le confluent, c'est comme un carrefour de deux cours d'eau qui se mélangent. La différence entre un fleuve et une rivière, c'est que le fleuve va à la mer et la rivière non.
Un canal est fait avec est fabriqué avec les mains des hommes. Il faut aussi des machines.
L'écluse par elle-même fait 180 mètres de long, 16 mètres de large. Et nous pouvons prendre des péniches d'un enfoncement de 2,80 m. Dans ce type d'écluse, nous avons pour le moment une péniche que vous avez aperçue quand vous êtes arrivé, que nous appelions type fraissiné. C'était péniche de 38 mètres sur 5 mètres de large. Et dans cette écluse, nous pouvons en mettre 12. Et le deuxième bateau fait dans les 6 mètres de large, dans les 45 mètres de long, c'est qu'est-ce qu'on appelle un automoteur pousseur. Ce convoi complet peut transiter 7 et 6, 13 cent tonnes de céréales. C'est sa spécialité de transport. L'écluse, vous voyez là, on aperçoit d'ici, si vous regardez tous sur l'aval, la fermeture de la porte.
L'aval et l'amont sont des directions. L'aval est la direction vers le bas de la rivière. L'amont est la direction vers le haut de la rivière.
L'écluse, vous voyez là, on aperçoit d'ici, si vous regardez tous sur l'aval, la fermeture de la porte. Vous voyez, il y a une porte qui se ferme. Quand cette porte sera fermée, nous allons fermer toutes les vannes.
Je vais vous expliquer ce que c'est que des vannes. Les vannes, ce sont des trous en bas des deux portes de l'écluse pour faire monter et descendre le niveau de l'eau. Pour faire monter et descendre les bateaux.
Quand tout sera fermé à l'aval, on va se retourner, on va regarder l'amont. Nous avons des vannes que nous allons ouvrir. Et le niveau de l'amont, l'écluse va se remplir pour rattraper le niveau amont. C'est-à-dire que nous avons une pente d'eau.
On va essayer de vous faire comprendre c'est quoi la pente d'eau.
Les bateaux peuvent pas sauter les barrages, c'est comme une marche d'escalier.
Une grosse marche comme ça, c'est une pente.
Les bateaux doivent passer dans l'écluse.
Si les bateaux, ils sont obligés de prendre l'écluse, sinon les bateaux vont tomber et puis c'est tout. Et puis après, ils vont peut-être couler.
Avec l'écluse, ils franchissent cette pente.
La pente d'eau, on la voit plus parce qu'on a le bateau qui est devant nous et on se décalera sur l'aval. On la verra derrière le barrage. Un barrage sert à réguler le fleuve, c'est-à-dire en hiver, laisser passer le plus d'eau possible. Et en été, à retenir le plus d'eau possible pour que le fleuve soit navigable. Nous avons, vous voyez, la grande cabine que vous avez en face de vous. Il y a une personne qui fait le métier d'éclusier.
Comment est-ce que l'eau monte dans l'écluse ?
L'eau monte dans l'écluse par le système, comme je vous ai déjà expliqué, de vases communicants et par des vannes. Les vannes se trouvent à l'amont et à l'aval. Le système de vannes de cette écluse est par le fond.
À toi, Philippe. Comment est-ce que l'eau descend ?
L'eau descend par des vannes aussi qui se trouvent à l'aval. Nous avons à l'amont et à l'aval. Remplir et vider cette écluse, c'est le même principe.
Comment fait-on pour ouvrir et refermer la porte de l'écluse ?
Pour ouvrir, pour refermer la porte de l'écluse, je vous ai montré la cabine de commande qui se trouve au centre de l'écluse. Nous avons une personne qui appuie sur des boutons manuels qui permet de fermer et d'ouvrir.
Comment met-on un bateau dans l'écluse ?
Nous ne mettons pas de bateau dans l'écluse. Le bateau est autonome. C'est la personne qui est sur ce bateau, qui est marinier, comme je vous ai dit, et qui est un métier. Il a un permis de capacité qui prouve qu'il sait conduire ce genre de bateau de grand gabarit, petit gabarit ou plaisance.
Combien l'écluse peut contenir de bateaux ?
L'écluse peut contenir 12 bateaux de 38 mètres sur 5, peut contenir un seul bateau de 180 mètres sur 12 mètres, peut contenir 6 bateaux de 8 mètres sur 45 mètres, peut contenir 8 bateaux, peut contenir 25 plaisances, 100 plaisances, peut contenir 90 barques, peut contenir 100, peut-être 150 kayaks.
À toi Aurélie. Y a-t-il des bateaux qui ne peuvent pas rentrer dans l'écluse ?
Non, tout bateau peut rentrer dans l'écluse. Tout ça est régi par un règlement de navigation intérieure. La rivière est donnée aux normes de navigation à 11,40 m. Aucun bateau supérieur à cette largeur puisse monter jusqu'à Paris.
Les gros bateaux n'ont pas le droit d'entrer sur la Seine. Comme ça, ils ne peuvent pas être coincés dans l'écluse.
Qu'est-ce que vous faites quand il y a trop d'eau qui arrive à l'écluse ?
Quand il y a trop d'eau qui arrive à l'écluse, je vous ai expliqué qu'il y avait un barrage en face de nous. Nous descendons les portes pour laisser évacuer l'eau.
Expliquez-nous comment les bateaux passent.
Il va rentrer dans l'écluse, on va fermer la porte, on va vider le sas, on va ouvrir la porte et le bateau partira.
Maintenant, on va vous expliquer qu'est-ce que c'est le sas.
Le sas, c'est deux portes fermées.
Du côté de la porte amont, le niveau de l'eau est haut. Du côté de la porte aval, le niveau de l'eau est bas.
De l'autre côté de la porte aval et de l'autre côté de la porte amont.
Enfin, c'est ce que je voulais dire. Sinon, l'eau, elle serait un peu de travers.
Sans ça, les bateaux ne pourraient pas passer. S'il n'y avait pas d'écluse, quel dommage!
C'est évident.
Eh oui.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O.
C'était le CE2A de l'école Jacques Solomon.
Nous avons interrogé M. Ego. On lui dit merci. Et maintenant, nous allons interroger un ingénieur.
On va le poser des questions. D'où vient l'eau ?
Comment l'eau bouge ? Comment ça flotte ?
Écoutez donc notre prochaine émission. Au revoir.
Sur l'eau.
Au revoir.
Goodbye. I love you.
Elle a trouvé beaucoup de choses. Elle a trouvé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais pas de l'eau. Oh, H2O. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh, 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 oh H2O. Oh, 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 H2O.
Comment vous appelez-vous ?
José Carmona.
Que pensez-vous du festival de l'eau ?
Ben, je pense qu'il faut le faire, puisque nous sommes des organisations qui ont besoin d'argent. Et ça nous permet d'avoir un peu d'argent pour donner aux pauvres. T'as compris, mon chéri ?
Oui, merci. Est-ce que l'eau, c'est important pour vous ?
C'est important pour tout le monde. C'est une chose très, très importante. Sans eau, on ne pourrait pas vivre, mon grand.
Merci. Bonjour, nous venons pour Radio Cartable. Est-ce que nous pouvons vous poser quelques questions?
Ah ben tu peux, oui.
Comment vous appelez-vous?
Paul Drayan.
Qu'est-ce que vous pensez du Festival de l'eau?
Je trouve que c'est pas inintéressant, d'autant plus que c'est la deuxième année. Alors en plus, dans l'après-midi, nous avons fait une promenade sur les bords de Seine, de Marne, pardon, et j'ai trouvé ça intéressant.
Est-ce que l'eau, c'est important pour vous?
Ah oui, je pense, oui. Je pense, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne s'en préoccupent pas trop de la polluer. Hein. Enfin, disons, se désintéressent totalement de son devenir. Parce que ça, c'est vital dans la vie des gens. Hein.
Merci pour ces questions.
Bonne soirée.
Bonjour. Que pensez-vous de cette fête?
Je pense qu'elle est, elle est bien réussie. Franchement, cette fête, elle est bien, mais ce qui est dommage, c'est qu'elle n'est pas à la mairie. C'est tout.
Nous faisons une émission pour Radio Cartable. L'eau est-elle importante pour vous?
Ah, l'eau? L'eau, c'est important. Ouais, pour moi, c'est important. Toi aussi, tu penses que c'est important? L'eau, c'est la vie, voilà, c'est vital, voilà.
Merci. Bon, au revoir et merci.
Merci, au revoir. Claire,
oui.
Alors, bonjour. Nous faisons une émission pour Radio Cartable.
Oui.
Nous allons vous poser des questions.
Allez-y, oui.
Comment t'appelez-vous?
Antonio.
D'accord. Alors, que pensez-vous de cette fête, monsieur?
Je trouve qu'elle est très bien organisée, que c'est bien, c'est très sympa, ouais.
Est-elle importante pour vous, l'eau?
Oui, je trouve que c'est très important. Ça fait une occasion pour sortir, on se réunit, il y a du monde qui se réunit, les jeunes et tout ça, je trouve que c'est très sympa. Ouais, non, franchement, c'est bien, et même il y a une bonne ambiance, et dommage qu'il s'est mis à pleuvoir aujourd'hui, quoi, c'est tout. C'est bien.
Au revoir et merci.
Ouais, mais t'as rien. C'est bien.
Bonjour, Radio Cartable.
Ah, super, oui, alors.
Bonjour, nous faisons une émission pour Radio Cartable.
Oui.
Comment t'appelez-vous?
Marie-Esther.
Que pensez-vous de cette fête?
Qu'elle est sympathique. On peut faire des choses avec les enfants et puis il y a des tours en bateau, c'est agréable. Dommage qu'il ne fasse pas beau.
L'eau est-elle importante pour vous?
Très, très. C'est la chose la plus importante pour la vie, ça et la lumière du soleil. Sans ça, on ne pourrait pas vivre.
C'est indispensable.
Pourquoi?
Parce que c'est indispensable à la vie. Tous les animaux, tous les êtres vivants ne pourraient pas vivre sur Terre sans eau.
Au revoir et merci.
Merci à toi, au revoir, bonne fête.
Je m'appelle Estelle.
Je m'appelle Mariam.
Je m'appelle Ashley.
Est-ce que nous pouvons vous poser des questions pour Radio Cartable?
Bien sûr, avec plaisir.
Qui êtes-vous?
Alors moi, je m'appelle Pierrette Giraud et je suis adjointe au directeur de l'agence portuaire Seine-Amont, au port autonome de Paris.
Pourquoi êtes-vous ici?
On est ici parce que dans le cadre du Festival de l'eau, on a prêté notre port au Festival de l'eau et à la ville d'Ivry pour que puisse se dérouler la fête de la ville d'Ivry, le Festival de l'eau. Et donc, on a, pour faire connaître le port aussi, on a décidé d'avoir un stand ici.
Est-ce que la Seine peut toujours aller jusqu'à la mairie?
Oui, tout à fait. Il y a un mur anti-crue qui a été construit, mais il est construit jusqu'à la crue de 1955. Or, la crue de 1910 a été beaucoup plus haute. Et il se pourrait qu'il y ait encore une crue aussi haute, voire plus. C'est une crue qui revient à peu près tous les 100 ans.
Pourquoi y a-t-il des usines qui fabriquent du béton au bord de la Seine?
Il y a des usines qui fabriquent du béton au bord de la Seine parce qu'on a tous besoin de béton. C'est le produit industriel le plus utilisé au monde. L'avantage que ça soit au bord de la Seine, c'est que les granulats, les sables et graviers peuvent arriver par la voie d'eau et comme ça, ça évite qu'il y ait beaucoup de camions sur la route.
Qu'est-ce que les péniches transportent?
Ah ben les péniches, elles transportent beaucoup de choses différentes. Elles transportent du sable, du gravier, des terres, des céréales, des produits manufacturés comme des parpaings, des choses comme ça. Elles transportent aussi des déchets industriels, des ordures ménagères. Elles peuvent aussi, plus grandes que les péniches, peuvent aussi transporter des conteneurs. Toute une gamme de produits qui sont adaptés pour transiter par la voie d'eau.
Comment va être le port après ?
Ben écoute, le port là, que tu as vu, toute la partie industrielle a été refaite, tous les industriels ont refait leurs installations. Nous, on a fait une promenade pour que les gens d'Ivry puissent voir l'eau quand même s'il y a le port. Et la partie sur laquelle tu es ici, ça va être une zone d'animation loisirs avec des bateaux activités qui vont faire du cinéma, des restaurants, du théâtre. Voilà ce que sera le port après.
Comment était le port avant ?
Ben écoute, le port avant, il n'était pas très beau, il était très vieux. C'est un port qui est très ancien. Et les installations industrielles qu'il y avait, elles dataient d'à peu près 30 ans, voire 40 ans. Elles étaient toutes complètement vétustes. La façade du port n'était pas belle. Les gens ne pouvaient pas voir l'eau, ils ne pouvaient pas voir les activités portuaires. Et donc, c'était pas très joli. Donc, on a décidé de tout refaire.
Est-ce qu'il va avoir un port pour les passagers ?
Ben oui, ici où tu te trouves, ça va être un port qu'on appelle un port d'animation loisirs. Et tu vas pouvoir embarquer pour aller faire des tours, des promenades, soit sur la Marne, soit vers Paris. Et tu pourras donc te promener sur les bateaux à partir d'ici.
Au revoir et merci.
Ah ben c'est avec plaisir que je vous ai donné toutes ces informations. Alors à bientôt.
Bonjour, bonjour. Nous travaillons pour Radio Cartable. Quelle est votre association ?
L'association des pêches et de protection des milieux aquatiques d'Ivry, Charenton, Alfortville et Vitry, Saint-Maurice et Moisan-Alfort, qui exerce son activité pour la pêche sur la Marne et sur la Seine.
Est-ce que être pêcheur, c'est votre vrai métier ?
Non, bien entendu, c'est un loisir et c'est un sport en même temps. Donc j'ai toujours aimé ça. La première photo que je possède encore me montre à 4 ans en train de pêcher, donc dès tout jeune, et j'ai eu cette passion qui m'a été transmise par mes parents.
Où allez-vous pêcher ?
Je pêche surtout dans les rivières, les étangs, en France et quelquefois dans d'autres pays à l'occasion de voyages que j'ai pu faire.
Quelle sorte de poisson ramenez-vous ?
Eh bien, dans nos rivières de France, il y a 38 sortes de poissons. Nous les voyons d'ailleurs au fond du stand là-bas, vous pouvez les regarder. Ce que l'on prend plus particulièrement dans la Seine et la Marne, sur Ivry, ce sont dans les carnassiers les brochets, les cendres et les perches, et dans les autres poissons, le gardon, la blette, la tanche, la carpe, le goujon, quelquefois maintenant qui revient parce que l'eau est plus propre, et un certain nombre d'autres poissons qui reviennent aussi dans nos rivières parce que l'eau a été améliorée.
Est-ce que vous les mangez ?
En principe, quand je prends du poisson et quand je pêche, je remets toujours mon poisson à l'eau. Sauf quand je prends des carnassiers, les brochets, les cendres, qui font la taille, ou les truites, dont aussi il y a une taille à respecter. Quand ils sont trop petits, on n'a pas le droit de les manger, on doit les remettre dans l'eau. Quand ils sont gros, on a le droit d'en manger de temps en temps. Et donc, à part les carnassiers, je ne mange pas les autres poissons.
Pourquoi avez-vous choisi cette occupation ?
Je crois que dès mon plus jeune âge, j'ai eu cette passion de la pêche. Et donc je l'ai poursuivi toute ma vie. Et de ce point de vue, par exemple, de l'association, j'en suis le président depuis maintenant 50 ans.
Comment vous faites pour pêcher ?
Bien, pour pêcher, il y a plusieurs façons de pêcher, mais il faut pêcher avec une gaule. Dans le temps, les gaules étaient en bambou. Maintenant, c'est des matières plastiques très résistantes. Et puis, il faut une ligne comme celle que nous fabriquons ici au cours du stand. Et c'est avec ces lignes auxquelles on a accroché un hameçon qu'on met un appât. Et le poisson qui a faim vient manger cet appât. Et alors, on le ferre et il est pris. Et donc, on le décroche ensuite, on le met dans la bourriche. C'est comme ça qu'on pêche. Beaucoup. Il y a le flotteur coule, et au moment où il coule, il faut ferrer pour prendre le poisson.
Ramenez-vous d'autres choses à part du poisson ?
Quelquefois des coups de soleil quand il fait très beau, mais aussi d'être bien bronzé, et en particulier quand je pêche en barque, pas dans cette région puisqu'on ne peut plus pêcher en barque dans la Seine et la Marne par ici, mais dans l'Yonne où j'ai un petit bateau, c'est l'environnement aussi qui est extrêmement beau. Il y a des tellement beaux, il y a des hérons, il y a des ragondins, il y a des oiseaux très beaux dans cette région. Et puis l'Yonne dans ce moment-là est sauvage et on n'y entend aucun bruit, sauf les oiseaux, sauf les animaux qui sont dans le coin. Et j'y rapporte une grande sérénité, un plaisir d'avoir passé un grand moment dans la nature et d'avoir satisfait à ma passion, qui est à la fois un loisir, je veux dire, un sport, mais en même temps aussi une action, parce qu'il n'y a pas de meilleur défenseur de l'eau que les pêcheurs. Nous sommes à l'affût de tous ceux qui polluent l'eau et nous intervenons toujours et sont punis par des jugements. Nous touchons de l'argent d'ailleurs pour réempoissonner quand il y a des pollutions sur la Seine ou sur la Marne.